franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et la question du climat et du lien possible dans le développement d'organisations terroristes ces 10 dernières années. Un rapport allemand publié jeudi apporte des réponses à cette question. Et selon le think tank Adelphi, qui publie ce travail, le réchauffement climatique crée un environnement favorable au développement des organisations armées et criminelles non étatiques. Bonjour Bastien Alex.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. Et puis dans ce studio également avec nous, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec le magazine reporter.net. Hervé, cette question du lien entre climat et terrorisme, les chercheurs tournent autour depuis maintenant un certain temps. Hein.
Depuis une bonne dizaine d'années, ouais. La question a commencé à être posée par des scientifiques, par des experts, et commencé aussi à être repris par des politiques et des décideurs. La nouveauté de ce rapport commandé par le ministère allemand des Affaires étrangères, c'est qu'elle va chercher à faire des études de cas très précises pour montrer comment le changement climatique contribue au développement de groupes non armés, terroristes ou pas seulement. Elle a pris par exemple 3 cas, on va parler du lac Tchad où une succession de sécheresses a entraîné un rétrécissement du lac et donc une difficulté croissante pour toutes les populations riveraines qui vivaient de ce lac et qui en vivent de moins en moins, donc du coup une fragilisation des sociétés et un terrain fertile pour des groupes armés qui peuvent recruter des jeunes marginalisés qui ne trouvent plus d'emploi ou d'avenir. Il y a aussi le cas de la Syrie qui est analysé en détail et où les chercheurs rappellent qu'il y a eu 10 années de sécheresse sur les 20 dernières années, ce qui a conduit là aussi à une déstabilisation de la société, un très fort exode rural. Et donc finalement, ce qui apparaît, c'est que le changement climatique est un multiplicateur de ressources, de menaces. Il fragilise les ressources, il fragilise les populations et c'est un des facteurs qui contribue au terrorisme.
Bastien, Alex, on peut dire qu'il y a une dynamique, une logique commune dans toutes ces zones qui lie réchauffement climatique et montée du terrorisme ?
Je pense que Hervé l'a très bien expliqué. En fait, ce qui pose problème, c'est évidemment la destruction à long terme des conditions d'habitabilité des territoires. À partir du moment où on n'a plus les conditions de la subsistance sur place, quand on est un paysan qui vit l'agriculture vivrière ou d'autres professions qui sont directement liées finalement à notre environnement, on est bien sûr très menacé par les conditions changeantes de cet environnement. Et si vous ne pouvez plus vivre sur un territoire d'une activité légale ou on va dire en tout cas non violente, vous êtes intéressé par d'autres chemins de traverse. Et évidemment que ça constitue des terreaux fertiles pour d'habiles recruteurs djihadistes. On sait que ce n'est pas un scoop, le terrorisme se nourrit de la misère. On est exactement sur cette logique-là, c'est pour ça qu'on ne réinvente pas la roue. On est simplement dans l'analyse concrète d'un phénomène de dégradation à long terme des environnements et donc des conditions de vie des populations.
Si on reprend l'exemple de la Syrie, quelles ont été les conditions climatiques particulières depuis 10 ans ?
Disons que la Syrie, ne l'oublions pas, est aussi un pays aride. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de sécheresses ces dernières années qui vont mettre à mal les ressources des agriculteurs qui dépendent directement, enfin on le répète jamais assez, hein, mais l'agriculture ça dépend de quoi ? Ça dépend des conditions climatiques, de l'eau et de l'ensoleillement. Évidemment, le changement climatique est donc le premier facteur de perturbation. Et oui, donc dans le cas de la Syrie, ce qui compte, c'est les sécheresses, mais aussi, n'oublions pas, le mal-développement, avec parfois aussi de mauvais choix d'agriculture qui sont proposés par les gouvernements, une mauvaise gestion de la ressource, et tout cela conduit, entre autres facteurs, à provoquer des tensions, et peut contribuer, à, en tout cas en partie, au phénomène de la révolution syrienne. Encore une fois, il faut rester prudent, c'est un contributeur, Hervé l'a dit, c'est un multiplicateur de menaces, en aucun cas on peut en faire le facteur primaire, central, de ce conflit.
Bastien Alex, pardonnez-moi pour cette question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le fait de lutter contre le réchauffement climatique pourrait permettre de lutter contre les groupes terroristes ?
Évidemment, à long terme, oui, je le pense, puisque nous l'évoquions, tout dépend du terreau fertile que contribuent à créer les dégradations environnementales. Après, le grand problème que nous avons, c'est que nous sommes ici sur des logiques de long terme, et que ça ne nous aura pas échappé, la capacité de notre classe politique à se projeter dans ce type d'enjeu est quand même relativement limitée. On en a encore eu un bel exemple, je pense, sur ces dernières semaines, où on a beaucoup plus parlé des décostards de M. Fillon, que des problématiques de long terme. Et je crois que c'est un discours qu'il faut commencer à porter. C'est pour ça que nous travaillons, nous autres, en tout cas spécialistes, à promouvoir un petit peu ces sujets-là, pour que les politiques s'y intéressent et qu'on ne prenne pas le problème comme quelque chose qui concernera nos générations, nos futurs, d'ici une cinquantaine d'années. Le problème, c'est que nous devons agir maintenant pour des effets qui ne seront visibles que d'ici plusieurs décennies. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse principalement et nos concitoyens, malheureusement, et nos politiques.
Ça veut dire qu'une politique de lutte contre le terrorisme ne peut pas se passer d'une lutte contre le réchauffement climatique ?
Encore une fois, je pense que c'est un point de départ. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le changement climatique n'est pas, comme souvent on le présente, un problème environnemental, c'est un problème transversal, c'est un problème global. Je dis toujours que c'est un problème doublement global, puisque c'est à la fois un problème global sur le plan géographique, mais aussi un problème global sur le plan, on va dire, au sens littéral, c'est-à-dire que c'est un problème économique, c'est un problème politique, c'est un problème énergétique, c'est aussi un problème environnemental. C'est pour cela que, non pas en faire un problème environnemental qui ne serait discuté que dans les cénacles onusiens sur ce sujet, mais en faire un élément guidant la définition des politiques publiques. C'est comme ça, d'une manière diffuse, qu'il faut distiller un petit peu cette prise en compte du changement climatique.
Hervé Kempf.
Mais il y a, vous l'avez dit, les responsables politiques sont peu sensibles finalement à ces questions. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez concrètement si tel ou tel candidat, par exemple à la présidentielle, vous disait qu'est-ce que je dois faire ?
Moi, je leur conseillerais peut-être, de façon provocante, de lire un peu plus et peut-être de s'intéresser davantage à la prochaine génération qu'à la prochaine élection. C'est toujours un petit peu le même problème. Mais là aussi, encore une fois, il est difficile dans l'électorat français d'imposer ce type de sujet, sachant qu'on est dans une période de récession économique, en tout cas de difficultés économiques, où le sujet changement climatique est fort peu audible. Donc il faut effectivement s'intéresser un peu plus à ce que peuvent faire les centres de recherche, notamment français, sur la question, puisque nous commençons à nous y intéresser, et peut-être aussi avoir un peu le courage de se mettre en difficulté sur une élection en portant des sujets qui sont certainement pas les plus pertinents pour une certaine frange de l'électorat, mais je crois que c'est malheureusement le conseil à leur donner, c'est ça, c'est essayer de se projeter non pas à horizon 5 ans, mais à horizon 25-50 ans,
à leurs enfants. Ce think tank, là justement, à Delphi, il propose des mesures concrètes pour avancer dès maintenant ou pas ?
Alors, je vais être honnête avec vous, moi j'ai pas encore lu leur rapport et leurs recommandations, mais j'ose espérer qu'en tout cas ils le font, puisque c'est généralement ce qu'on essaye tous de faire. Dans les travaux qu'a pu faire l'IRIS par le passé, nous on invite aussi toujours notre interlocuteur principal, qui est le ministère de la Défense, en tout cas à prendre ce problème à bras-le-corps, mais dans l'ensemble de son spectre d'activité. Ça veut dire autant de mettre le doigt en tout cas sur les menaces et les risques liés au changement climatique à long terme, mais aussi par exemple travailler à, on va dire, une amélioration de l'empreinte carbone par exemple de nos forces armées, de nos capacités opérationnelles. Donc aujourd'hui c'est un fait, hein, mais finalement ceux qui s'y intéressent en tout cas au changement climatique avec cette vision long terme, c'est plutôt les militaires. Et c'est un peu la situation qu'on observe aux États-Unis de façon assez alarmante, hein, mais c'est comme ça, les militaires américains sont en désaccord avec l'administration américaine sur le sujet du changement climatique, ce qui est quand même, vous en conviendrez, assez ironique.
Allez, dernière question très vite, Axel. Oui,
cette question de l'aide aux sinistrés du climat, elle a été débattue à la conférence pour le climat de Paris, et c'est d'ailleurs un des points qui n'a pas été tranché.
Alors le problème, c'est que Hervé connaît ça aussi très bien, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une phase de définition des règles de l'accord de Paris, de la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui encore une fois sera applicable à partir de 2020. Donc l'idée, c'est que maintenant nous avons des objectifs, il faut bien sûr les revoir à la hausse, nous avons aussi des enveloppes budgétaires qui sont avec des montants fixés, alors qu'ils ne sont pas abondés encore, hein. Mais nous devons décider de la répartition de ces enveloppes. Ça veut dire qu'il faut à la fois travailler sur les règles, par exemple, est-ce que vous considérez qu'il est plus pertinent d'octroyer un certain montant pour certains projets qui concernent des pays qui vont peut-être disparaître de la surface du globe, je prends l'exemple de Tuvalu, ou est-ce qu'il faut réagir avec un critère de population, par exemple 10% du territoire vietnamien est amené à disparaître du fait de la montée des eaux, où on trouve là plus de population, faut-il octroyer en priorité des fonds sur ces espaces-là ? Donc on discute aussi des règles de répartition d'enveloppe, ce qui évidemment, vous en conviendrez, tous les pays ont des modalités de répartition qui épousent leurs intérêts propres.
Merci Bastien Alex pour cet éclairage donc sur le lien entre réchauffement climatique et terrorisme, un lien qu'on retrouvera sur reporter.net dès demain.
Qu'on retrouve déjà, je crois.
Absolument, et on va continuer encore plus.
Merci beaucoup Hervé Kempf. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 13 000 ans, les dentistes du Paléolithique qui soignaient déjà les caries avec des feuilles et du bitume naturel. Plusieurs dents fossiles découvertes en Toscane et décrites par les chercheurs italiens nous font découvrir des techniques de dentisterie pas si éloignées des techniques modernes. La dent infectée était creusée et vidée de sa pulpe pour être ensuite rebouchée à l'aide d'un amalgame fait de végétaux, de cheveux et de bitume naturel. L'étude ne nous dit pas si les patients étaient anesthésiés avant ces opérations, qui était certainement très douloureuse. Les auteurs supposent que ces Homo sapiens creusaient les dents à l'aide de petits pieux en bois aux pointes de silex, les mêmes outils avec lesquels ils taillaient leurs bijoux de perles, retrouvés également en abondance sur le site italien. L'ADN, qui a une arme secrète pour éviter les nœuds fines de quelques nanomètres seulement et longues de presque 2 mètres, la molécule d'ADN humaine peut s'enrouler et se dérouler facilement sans jamais faire de nœuds. Et bien pour éviter les catastrophes, des chercheurs anglais ont identifié plusieurs molécules qui participent à l'organisation de ce long filament molécule. moléculaire. Ces protéines sont comme des petits moteurs capables de faire et de défaire de longues boucles d'ADN. En plus d'éviter les nœuds, ces protéines participent également à l'expression des gènes en mettant en contact différentes régions particulières du génome dont l'expression est ainsi liée. Et puis enfin, les écrevisses qui boivent seules sont ivres moins vite que celles qui sont en groupe. Cette drôle de conclusion nous vient d'une étude très sérieuse menée aux États-Unis sur les effets de sociabilité en lien avec l'alcool. Les chercheurs ont exposé des écrevisses solitaires ainsi que des groupes d'écrevisses à différents bains d'éthanol plus ou moins concentrés. Et ils remarquent, sans pourtant l'expliquer, que les écrevisses exposées en groupe manifestent beaucoup plus vite les effets de l'ivresse, qui sont pour ces crustacés une excitation passagère suivie d'une forte aphasie. Si jamais le mécanisme découvert était le même chez l'homme, il permettrait d'expliquer pourquoi les personnes seules boivent souvent plus que les autres.